Bonjour à tous. Je vais juste allumer ça. Ça allume pas, si. C'est bon. Bon, j'aurais bien aimé commencer ce moment en disant, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vous promets, on ne s'est pas concerté avant, mais mon sujet, c'est la plainte. Bon, c'est pas ça, je plaisante bien sûr. Bon, du coup, si ça vous va, on va faire un petit jeu pour essayer de deviner le thème que je veux qu'on aborde. On va commencer par assez simple. Qui c'est? Thomas Pesquet et Zinedine Zidane. Allez, plus difficile. Ouais, je veux bien que tu avances, s'il te plaît. Ah, on a Martin Luther et Marie Durand, tout à fait. Attends, vous êtes fort. Ensuite. Mère Teresa, à droite. Et Corrie ten Boom, tout à fait. Plus contemporain. Elon Musk et Bill Gates. Ça y est, les hommes d'affaires connaissent. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Ça va parler à ceux de mon âge pour le personnage à gauche et aux plus jeunes encore. Tout à fait. Squeezie et vous ne connaissez pas. Sûrement, c'est Shane Claiborne à droite, mais j'y reviendrai plus tard. Vous saurez plus tard qui c'est. Je veux bien que tu passes celui d'après. Billy Graham et Francis Chan, tout à fait. Et pour finir, Moïse et Abraham, tout à fait. Bon là, normalement, je vous ai tous perdus. Mais du coup, est-ce que vous avez compris de quoi on va parler? Bon, j'avoue, c'est sûrement très difficile. On va parler presque, presque, on se rapproche, on va parler des modèles dans nos vies. Alors, devons-nous avoir des modèles dans nos vies? Oui. Qui? Jésus. Oui, super. Du coup, j'ai rien à rajouter. Fin du message, merci de m'avoir écouté. On peut prendre un bon dimanche. Bon, on va commencer par le début du coup. Et pour commencer, on va parler de. Ben, moi j'aime bien poser les bases au début, du coup on va parler de Jésus. L'exemple parfait. Donc vous allez sûrement rien apprendre pour la plupart, mais et ça sonnera sûrement comme une redite pour beaucoup, mais je crois que c'est utile de commencer par là. Qui est Jésus? En quoi est-il l'exemple parfait? Le modèle parfait? Commençons par le début de sa vie. Un modèle d'obéissance. Un modèle d'obéissance à ses parents terrestres et à son Père céleste. À 12 ans, après la fête de la Pâque à Jérusalem, ou après 3 jours de voyage, Marie et Joseph se rendent compte que Jésus manque à l'appel. Ça part très mal pour l'obéissance déjà. On peut lire en Luc 2, versets 49 à 51. Pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il leur était obéissant. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Il n'y en a pas beaucoup, mais je m'adresse surtout aux plus jeunes. Bon, les adolescents, ils écouteront le message s'ils veulent. Et oui, suivre l'exemple de Jésus, c'est obéir à ses parents, même quand on a mieux à faire et qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec eux. Ça commence fort, hein? C'est pas facile. Surtout que son obéissance à Jésus ne faillira jamais, du début à la fin de sa vie, ou dans le jardin de Gethsémané, Il se soumet entièrement à la volonté de Dieu. Abba Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ensuite, j'ai rassemblé deux modèles, deux points suivants qui se rassemblent parce qu'ils arrivent au même moment. Un modèle face à la tentation et un modèle en connaissance de la parole. Donc juste après son baptême, Jésus est envoyé dans le désert par le Saint-Esprit pendant 40 jours. Après au moins 3 tentatives du diable de le faire chuter, Jésus résiste à toutes ces tentations. Comment ? Principalement par une connaissance et une interprétation juste des textes. On peut lire en Luc 4, « Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à son sujet, à ton sujet, pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Ensuite, un modèle d'enseignant. Donc, peu après son passage dans le désert, Jésus retourne en Galilée où il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Bon, j'ai pris le premier exemple chronologique dans le livre de Luc où Jésus est décrit comme enseignant, mais il y a bien d'autres passages qui nous montrent toute l'étendue de ce trait-là. Que ça soit en Matthieu 5 avec les béatitudes ou un peu après quand Jésus reprend la loi donnée à Moïse en apportant de nouvelles précisions en Matthieu 5, versets 21 à 48. Ou encore tous les enseignements et paraboles donnés à ses disciples. Ensuite, on a un modèle de compassion. Alors, la compassion, c'est partager les souffrances de l'autre, les comprendre. C'est la bonté, l'attendrissement, la pitié, la miséricorde. À plusieurs reprises, comme en Matthieu 9, verset 36, lorsqu'en voyant les foules, il fut pris de compassion pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ou encore lorsqu'il ressuscite le fils unique d'une veuve. Le Seigneur vit la veuve, il fut pris de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Pareil avec la résurrection de Lazare. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Jésus pleura. Bon, à partir de là, je suis plus arrivé à suivre la chronologie, au vu de la quantité d'exemples et de modèles que nous donne Jésus. Un modèle de puissance. Je veux bien que tu passes à la suite, s'il te plaît. De puissance du Saint-Esprit. J'entends par là la capacité à se laisser utiliser par Dieu. On vient de le voir juste avant, par les nombreux miracles, les guérisons, les chasses de démons, les résurrections qu'il a faites. Un modèle de jugement, de sagesse, et un modèle de pardon. Comme lorsque les pharisiens essayent de le piéger à plusieurs reprises. Le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est marquant de sagesse, c'est lorsque des agents font semblant d'être pieux, ils posent la question suivante. Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute droiture. Tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais c'est en toute vérité que tu enseignes la voie à suivre, selon Dieu. Eh bien, dis-nous si oui ou non, nous avons le droit de payer des impôts à César. Connaissant leur fourberie, Jésus leur répondit, « Montrez-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ?»« De César. » « Eh bien, leur dit-il, rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre en défaut dans les propos qu'ils tenaient devant le temple. Il y a encore un exemple de pardon quand ils viennent aussi dans le temple alors qu'il enseignait, et traîne devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus répond. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus, va, désormais ne pêche plus. Un modèle d'humilité. Alors, qu'est-ce que l'humilité? Là, j'ai repris la définition du Larousse. L'humilité, c'est le sentiment, l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Je crois que le plus bel exemple d'humilité, c'est lorsque Jésus, alors qu'il est le Fils de Dieu, s'abaisse et lave les pieds de ses disciples, en Jean 13, verset 4 à 12. Et Jésus le dit lui-même aussi, en Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Ensuite, un modèle dans la persécution, qu'elle soit spirituelle, lorsqu'il est rejeté par les gens de sa ville d'origine, en Marc 6, ou lorsque les pharisiens essayent de le piéger en lui demandant un miracle, en Marc 8. Mais la persécution, elle est aussi physique avec Jésus, juste avant sa crucifixion. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Alors, juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous constatez dans les films en général sur la vie de Jésus, les soldats, ils sont pas nombreux. Ils sont 3-4 autour de Jésus à le fouetter, etc. Sauf que une cohorte, c'est quelques centaines de soldats. Alors, ils ont peut-être pas tous participé, mais j'ai juste visualisé la scène où il y a 100 personnes devant Jésus qui le regardent et qui se fait maltraiter. Et face à cette foule de soldats, je pense qu'on aurait eu tous le même réflexe. On aurait crié à l'injustice. On aurait dit, c'est pas possible. Arrêtez, s'il vous plaît. Mais Jésus, lui, il ne dit rien. Il ne dévie pas de qui il est. On pourrait citer beaucoup d'autres traits de caractère de Jésus où on peut le prendre en exemple. Un modèle de foi, d'altruisme, d'écoute. Un modèle de générosité et de paix. Mais tout ça, ça ne serait rien sans l'essentiel. Un modèle d'amour et de sacrifice. Alors normalement, il y avait une croix qui s'affichait. Tant pis. La mort sur la croix est le point culminant de son exemplarité. C'est le moment où tous les traits que l'on a cités avant se rassemblent. L'obéissance à son père, la compassion pour sa mère et le brigand, on l'a dit tout à l'heure, le pardon à chacun. Par amour pour nous, l'exemple parfait et sans tache donne sa vie à la place de tous. Ça fait une belle liste, n'est-ce pas? Pour l'imiter. Alors oui, Jésus par sa vie, par qui il est l'exemple parfait, le modèle à suivre par excellence. Mais y arrivons-nous vraiment? Est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aller prendre des exemples ailleurs? Peut-être plus proche de nous, en caractère, en personnalité. On se dit des fois, ouais, j'aimerais être comme Jésus, mais il est trop parfait. Est-ce qu'il n'y aurait pas des exemples un peu plus atteignables pour moi? Alors oui, il existe d'autres personnalités bibliques que nous prenons parfois en exemple. Hop. Tant pis. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes à prendre comme modèle. Dans cette partie, j'ai dû faire un choix, du coup, et je me suis retrouvé qu'avec des hommes, les plus connus, majoritairement dans l'Ancien Testament. Mais il existe beaucoup d'exemples de femmes dans la Bible. Je pense particulièrement à Ruth et Esther, qui ont un livre dédié à leur vie et à ce qu'elles sont dans la Bible. Bon, du coup, pour pas changer, on va reprendre l'ordre chronologique. C'est affiché. Le premier exemple, on pense souvent, je crois, c'est Abraham, le père des nations. Alors oui, il y a des exemples comme lui, des gens exemplaires comme lui avant lui. Je pense à Enoch et Noé. Mais leur vie et leur caractère sont moins développés que ceux dont on va parler. Abraham, donc. Le père des croyants est un modèle de foi. Un modèle de foi en Genèse 12, quand Dieu l'appelle à quitter sa terre pour aller vivre dans un pays inconnu, avec la promesse de commencer avec lui une grande nation bénie de Dieu. Ensuite, en Genèse 15 et 21, lorsque Dieu promet au couple âgé et stérile la naissance d'un fils qui héritera de la promesse faite à Abraham. Et enfin, en Genèse 22, où Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice de reconnaissance. Et Abraham, bien que réticent, obéit et il est retenu au dernier moment d'aller plus loin par un ange. Quel exemple de foi, Abraham ? Quel homme de foi ? Oui, mais Abraham chute au moins à un moment. Élie l'avait abordé il y a 2 mois dans une de ses prédications, lorsqu'Abraham, par crainte pour sa vie, énonce une demi-vérité ou un demi-mensonge. Ça dépend quel point de vue on le regarde. Par crainte pour sa vie, en cachant au Pharaon que Sarai est sa femme. Ensuite, on a Moïse, un autre modèle de foi. Celui qui permet au peuple de faire sortir et traverser la mer. Dieu va aussi se servir de Moïse pour montrer sa puissance par ses prodiges. Moïse est aussi un exemple d'obéissance qui va toujours de pair avec sa foi. Que ça soit pour faire sortir le peuple d'Égypte ou lorsqu'il monte au mont Sinaï pour prendre les tables de la loi. Obéissance, sauf à un moment. Où il désobéit, ou plutôt que d'aller parler au rocher, il le frappe. Et la conséquence de son péché sera qu'il ne pourra pas rentrer dans le pays promis. Après, on a 2 exemples chronologiquement. C'est 2 grands rois d'Israël, David et Salomon. David d'abord, c'est le beau gosse. C'est le roi d'Israël par excellence. C'est un modèle dans la persécution et dans la plainte, comme on l'a vu tout à l'heure. Lorsqu'il est pourchassé par Saül, David se confie uniquement en Dieu. On peut lire en Psaume 54, « Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie, ils n'ont aucun souci de Dieu. » Un homme selon le cœur de Dieu aussi, qu'on peut lire en 1 Samuel 13. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. Un exemple de compassion, lorsqu'il accueille Méphibosheth, en 2 Samuel 9, verset 7. « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Tout semblait très bien parti pour David. Sauf que David est imparfait et trébuche. Lorsqu'il s'unit à Bathsheba, lui fait un enfant et fait tuer son mari, Uri le Hittite, en 2 Samuel 11. Et après cela, David devient un modèle pour nous de repentance, lorsqu'il reconnaît sa faute auprès du prophète Nathan. Le roi d'après, Salomon. Exemple de grande sagesse, que ce soit pour diriger le pays ou rendre justice. Mais encore une fois, un homme pécheur, à la fin de sa vie, qui, séduit par des femmes étrangères, détourna son cœur vers des dieux étrangers. Je veux bien que tu passes. Et enfin, un peu plus proche de nous, dans la Bible, on a l'exemple de Paul, exemplaire dans son enseignement et dans son zèle pour annoncer l'évangile. qui exhorte les croyants à suivre son exemple comme lui suit celui de Jésus. Suivez donc mon exemple. Comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. En 1 Corinthiens 11, verset 1. Mais qui lui aussi a son écharpe dans la chair, le reconnaissant à plusieurs reprises qu'il est à la fois imitateur de Christ, mais aussi pécheur. Les exemples dans la Bible sont quasiment tous imparfaits, sauf Jésus, bien sûr, comme on l'a vu. Chacun reflète une partie de l'exemple de Jésus, mais tous sont entachés de péché et relevés par grâce, que ce soit la star David ou le célèbre Moïse. Leur imperfection n'est jamais masquée. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Simplement des exemples de parcours de vie et de ce que produit la relation avec Dieu. Si vous voulez d'autres exemples de modèles à suivre, je vous invite à lire Hébreux 11, qui fait la liste des actes de foi des personnages de l'Ancien Testament. Bon, du coup, c'est super tout ça. C'est très riche en enseignements, on a plein d'exemples, on peut s'arrêter là. Mais est-ce qu'on serait pas tenté de dire « Oui, mais ça reste un écrit, c'est lointain, c'est comme une autre époque, la culture a évolué, j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un de plus proche de moi, un contemporain que je connais ou crois connaître. » Vous vous rappelez les photos du début ? Ben, je vais en repasser certaines, mais cette fois-ci, je vais les trier en deux catégories. Tout d'abord, on a eux. Vous l'aurez sans doute compris, ce sont des personnalités publiques connues de différentes générations et souvent pris comme modèles par beaucoup. Voire même plus que des modèles, elles sont adulées, voire adorées. Combien d'enfants ne se sont pas appelés Zinedine ou Zidane après 98? Combien fantasment sur les réussites d'Elon Musk où on a l'impression que tout ce qu'il fait se transforme en succès? Alors nous, en tant que chrétiens, pouvons-nous les prendre comme exemple? Une réponse évidente serait de dire non, pas du tout. Ils sont pas chrétiens, on les prend pas comme exemple. Oui. Mais pour certains, ils ont des aspects où ils peuvent être des modèles de comportement. Je prends par exemple Thomas Pesquet, qui est toujours calme, souriant devant les caméras ou dans l'espace. Ou des modèles de bonnes actions. Bill Gates et sa fondation, dont les principaux objectifs sont d'améliorer les soins de santé et réduire l'extrême pauvreté. Mais tous ces hommes ont aussi leurs défauts. On s'en souvient tous, la chute du héros, idolâtré par beaucoup et qui tombe en quelques secondes. D'ailleurs, une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si vous les regardez, mais dans la plupart des films biographiques sur les personnalités, contrairement aux exemples bibliques, tout est tourné vers la gloire de l'homme, la gloire de la personne et tout ce qu'il a fait de bien. Et les défauts, comme ce coup de boule, sont souvent minimisés, excusés, voire même oubliés complètement. Alors, pouvons-nous les prendre comme exemple? Sur certains aspects particuliers, peut-être. Mais soyons prudents et vigilants. Ne perdons pas de vue que leur intention, et je ne parle pas spécifiquement de ces personnes-là, n'est pas tournée vers le même objectif que nous devons avoir. Suivre Christ. Alors du coup, on a la deuxième catégorie de personnes. Les personnalités chrétiennes de notre temps. Du coup, j'ai mis quelques faits. C'est pas très lisible, mais du coup, je vais les dire. De ces personnalités. Corrie ten Boom, qui a aidé de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a fait des campagnes d'évangélisation en se concentrant sur le pardon, avec la fameuse histoire qu'on connaît tous, où à la suite d'un prêche, elle fait face à un des gardiens les plus horribles de son camp. Billy Graham, pasteur et évangéliste. Je ne vais pas citer tout ce qu'il a fait, mais je sais que certains ici se sont convertis grâce à lui. Moins connu et un peu plus de ma génération, Francis Chan, auteur et enseignant. Ceux qui ont lu Crazy Love savent ce qu'il a écrit. Qui, après avoir connu le succès dans des méga-church aux États-Unis, s'est retiré de la gloire humaine et s'est attaché à des communautés plus petites, loin du succès humain. Et celui que vous ne connaissez pas, d'ailleurs il est marqué Billy Graham, mais ce n'est pas Billy Graham, si vous avez suivi, il s'appelle Shane Claiborne. C'est un auteur de livres. Il a écrit Le Simple Radical, où il recentre la foi sur suivre Jésus et qu'est-ce que ça veut dire, et son parcours de vie. Et c'est un activiste chrétien aux États-Unis et il milite en particulier contre le port d'armes là-bas. Et bien d'autres combats qu'il mène avec beaucoup de ferveur. Alors, est-ce que nous devons les prendre pour modèle? Oui, carrément. Enfin, oui, mais, encore une fois, il y a un mais. Et pour expliquer ce mais, je vais reprendre un extrait. Que je trouve très pertinent d'une prédication de Pierre Moulinango intitulée « Vivre ensemble » qui aborde indirectement ce sujet. J'ai essayé de pas couper le texte et de redire tout ce qu'il a dit. Quand on est jeune converti, on s'attache aux hommes. Le Seigneur permet cela dans un premier temps. Il veut que cette petite plante que nous sommes ait un tuteur. Il place à côté de nous un homme ou une femme. Ce sont des hommes et des femmes que le Seigneur emploie pour nous aider à croître. Et évidemment, cette petite plante que nous sommes s'attache au tuteur. Et il faut qu'à un certain moment, pour que la petite plante se développe normalement, il faut que le maître vienne et arrache le tuteur. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour la petite plante. Et c'est ce que le Seigneur fait. Dès que nous nous attachons à un homme ou une femme, un serviteur de Dieu, un homme ou une femme de Dieu, nous sommes au bout d'un certain temps en danger. La Bible dit « Maudit est celui qui se confie en l'homme ». Nous devons nous confier en Dieu et apprendre à le faire. Chaque fois que je m'attachais à quelqu'un et que je le portais au nu, le Seigneur a permis un acte, une parole, qui montrait que cet homme était aussi un homme qui pouvait se tromper, se mettre en colère. Alors ça fait mal. C'est un choc quand la confiance que nous avions portée en quelqu'un est brisée. Mais c'est salutaire. Ce sont d'authentiques serviteurs de Dieu, des hommes pécheurs en lutte. Chaque fois qu'un homme attire la confiance à lui, qu'il devient indispensable entre une âme et Dieu, il faut s'attendre à ce qu'il déçoive. Dieu veut que nous soyons en contact avec lui directement. Si vous placez quelqu'un au-dessus des autres, attendez-vous à ce qu'il vous déçoive. Dieu veut qu'il vous déçoive. Dieu veut vous détacher des hommes. Il faut alors de nouveau faire confiance. Ce n'est pas parce qu'un homme déçoit ou faillit qu'il ne faut plus jamais lui faire confiance. Dieu, lui, n'est jamais déçu. Il ne peut pas être déçu par un homme car il connaît sa condition. En psaume 103, verset 14, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alors finalement, devons-nous avoir des modèles dans nos vies? Oui, et je dirais que c'est naturel de quelque part de s'identifier à quelqu'un. Pouvons-nous prendre des exemples, pour exemple des chrétiens autour de nous? Oui, mais ne perdons jamais de vue, frères et sœurs, comme le dit Pierre Moulinago dans la suite de son message, qu'il reste des hommes qui continuent d'être tentés jusqu'à leur dernier soupir, en lutte jusqu'à la fin de leur vie contre le vieil homme. Le chrétien est en lutte face aux attaques de Satan qui veut le faire tomber. Et il peut tomber. Le modèle parfait est Jésus-Christ. Oui. Mais heureusement pour nous, il a tout accompli à la croix. Par sa mort et sa résurrection, afin que nous puissions le suivre. D'ailleurs, on entend beaucoup la phrase « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ?» pour nous aider à réagir dans certaines situations, certaines circonstances, comme par exemple quand on est face à quelqu'un qui fait la manche dans la rue. Alors oui, l'exemple est intéressant, l'exercice est intéressant. Mais j'avoue ne pas trop aimer cette phrase, parce que je trouve que c'est restreindre l'infinie puissance de Jésus à notre propre pensée humaine et limitée. Et aussi parce que Jésus est déjà en nous, par son Saint-Esprit. Alors, dans ces situations de nos vies, que pouvons-nous faire? Bien déjà, est-ce que dans la Bible, j'ai un modèle, un exemple de situation similaire à la mienne? Y a-t-il un enseignement que je peux mettre en pratique dans ma situation? Mais surtout, le Saint-Esprit étant en nous, soyons à son écoute. Comment le Saint-Esprit me dit d'agir? Soyons alors à notre tour des modèles. Soyons des exemples qui mettons en lumière la croix et l'exemple de Jésus. Que notre témoignage, la confiance et l'exemple que nous pouvons donner dirigent le regard non sur nous, mais seulement vers Christ et l'action du Saint-Esprit en nous. Une croix, non, merci. Nous avons tous à progresser dans l'un ou l'autre domaine de nos vies. Peut-être qu'il y a un point parmi ceux-là sur lequel tu as besoin que Dieu t'aide, te fasse progresser. Et pour ça, je vous invite chacun à prendre quelques minutes de silence pour prier sur ça. Seigneur, merci pour l'exemple parfait que tu es. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous accompagner et nous transformer. Je te prie, Seigneur, de nous aider à nous examiner et à progresser pour plus te ressembler et diriger les regards vers toi. En ton nom. Amen.